Alors, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Moi, je suis fatigué, mais je suis heureux d'être ici, par exemple, avec vous. Et on a un sujet très, très réjouissant. On va parler de l'adoration. Avant de rentrer dans notre sujet, je voulais donner quelques nouvelles de ce qui se passe sur les campus. Vous savez que je suis le directeur des groupes bibliques universitaires et collégiaux. Et puis, je vous demande de garder dans vos prières les étudiants qui sur certains campus, en tout cas, commencent leur session d'automne comme maintenant. Ils terminaient leur session d'hiver en août-septembre. Et il y a des gens qui nous appellent, des étudiants ou qui nous envoient des courriels pour dire on veut partir un groupe sur dans notre école, pouvez-vous nous aider? Ça, c'est vraiment le fun, mais par contre, il faut prier qu'on trouve une bonne personne ressource pour les aider. Quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus vieux, qui peut les aider à avoir de la sagesse, qui est disponible pour aller dans les cégeps, par exemple, c'est souvent à midi, pendant la pause où les étudiants vont se rencontrer à chaque semaine. Donc, priez pour nous qu'on puisse mobiliser les bonnes personnes pour aider les étudiants. Par ailleurs, je voulais vous raconter une histoire intéressante et ça se peut que je vous l'ai déjà raconté. C'est notre groupe à Rouyn-Noranda. Mais en tout cas, je trouve ça merveilleux. C'est parce que nous, on est une petite équipe d'ouvriers pour aider les étudiants. Douglas et Judith le savent, et eux, ils habitent aussi loin de Montréal, et on a de la misère, nous, les ouvriers qui sont un peu concentrés à Montréal, à vraiment les aider, parce que ils ont pendant de nombreuses années, eux autres, ils aident les étudiants sur le campus à Saguenay. Mais c'est le même problème à Rouyn. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé l'année passée? C'est que, sans le savoir, il y a des étudiants venant d'Algérie et des étudiants venant d'Afrique et des étudiants venant d'Amérique latine des chrétiens qui se sont rencontrés sur le campus puis qui ont formé un groupe GBU, un groupe chrétien, et il y a des Québécois qui se sont joints à la gang, et donc c'est actuellement notre groupe le plus gros est à Rouyn-Noranda, et puis on les aide quasiment pas, mais eux nous encouragent vraiment, et moi il faut que je retourne là-bas les visiter, je les ai vus au mois d'avril. Mais vraiment, ils sont merveilleux. Puis, ce que ça montre, c'est tant les appels qu'on reçoit des cégeps que les nouvelles qu'on reçoit de Rouyn-Noranda, l'initiative étudiante, c'est vraiment encourageant. Et donc, on voit que ce sont parfois, souvent en fait, des jeunes personnes que le Seigneur, dans l'histoire de l'Église, le Seigneur a appelé de jeunes personnes pour transformer leur génération ou même leur nation. Des gens comme Jean Calvin jusqu'à des gens d'aujourd'hui, c'était souvent lorsqu'ils étaient aux études que Dieu les a appelés à le servir et à vraiment prendre un engagement vraiment radical pour être témoin. En passant, le livre, je vous ai parlé que les GBU vont publier un livre, ben il est sorti, ça s'appelle « Une nuée de témoins, la puissance de l'Évangile dans les universités du monde entier », un livre qui raconte pas mal, beaucoup de choses que les étudiants à travers les générations et aujourd'hui font pour transformer le monde au nom de Jésus-Christ. Beaucoup d'histoires de gens simples, mais qui ont placé leur foi dans le Seigneur. Je voudrais vous lire un petit paragraphe, puis ça va enchaîner pour aller dans notre sujet. Mais ça parle de la persévérance dans le témoignage. Un instant, s'il vous plaît. Ah, je vois que j'ai pas marqué le numéro de page. Mais je vais essayer de le trouver pareil. Mais coudonc, non, je ne vais pas pouvoir vous le lire. Non, OK. Mais de toute façon, je vous encourage à mettre la main sur ce livre. J'en ai quelques copies avec moi. Je ne veux pas faire compétition avec l'autre livre de Tozer qui est extraordinaire. Mais si vous voulez aussi celui-ci, venez me voir. Et on verra après le culte. Hein? Oui, ça s'appelle « Une nuée de témoins, la puissance de l'Évangile dans les universités du monde entier ». C'est écrit par Lindsey Brown, qui était le directeur des GBU mondiaux jusqu'à il y a peut-être 6-7 ans. Et il a écrit pas mal de, par rapport à des histoires qu'il a vécues lui-même, des gens qu'il a rencontrés. C'est un livre béni, bénissant. Et en tout cas, l'extrait que je voulais vous lire, c'était par rapport à la persévérance dans le service de Dieu, qui a un lien avec la question de l'adoration. Puis le sujet de notre sermon aujourd'hui, c'est l'adoration. Et on va regardez un psaume en particulier qui va nous enseigner là-dessus. Alors, je vous préviens, mon format de message aujourd'hui va être un peu artisanal et à mi-chemin entre un sermon et une école du dimanche. Et donc, on va prier que Dieu nous bénisse et nous guide, d'accord? Seigneur Dieu, merci pour cette occasion qu'on a de célébrer le fait qu'on peut marcher en toi et avoir une vie d'adoration. Mais aussi, on te remercie qu'on peut se réunir ici les dimanches et que dans ton esprit, grâce à Jésus-Christ, on peut vraiment t'offrir de nos bouches, de nos voix, avec nos instruments, l'adoration que tu as toujours voulu avoir, l'adoration d'un peuple racheté. Nous te remercions pour ce privilège. Guide-nous maintenant dans notre compréhension de cet appel à adorer. Au nom de Christ. Amen. Bon, alors. Ah, OK. Oui, donc, le psaume 150, ça va être un peu notre thème d'aujourd'hui. Mais vous savez, il y a une couple de semaines, Elsa qui, je sais pas si elle est là. Oui, elle est là. Elsa nous a parlé d'une lecture qu'elle a faite du psaume 150 dans ses lectures personnelles et qu'elle avait compris que le nouveau studio musical qui est en bas ici, pour lequel elle travaille, il y avait un lien entre le nom du studio, qui a été baptisé récemment, le studio 1506, et le psaume 150, qu'on va lire tantôt. Mais le verset 6, ouais, 1506, psaume 150, verset 6, le verset, il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. OK, ça se trouve à être le dernier verset de tout le recueil des psaumes. Donc, c'est un verset quand même important. Et la manière que c'est écrit dans les textes originaux et la manière que c'est traduit dans plusieurs Bibles en français, c'est en lettres majuscules pour dire qu'il y a comme des signes qui sont écrits, c'est emphatique, c'est vraiment un appel à la louange qui est vraiment souligné deux fois en caractère gras. C'est un appel au peuple de Dieu de vraiment louer Dieu. Puis ça implique bien sûr beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'autres choses aussi. Et en fait, c'est un psaume qui parle d'instruments musicaux. Donc, merci à la personne qui a laissé sa sonnerie allumée. Mais par contre, je vais lui demander d'éteindre sa sonnerie. Et je vais même vérifier que la mienne est... Oui, c'est bon. OK. Alors, l'importance de l'adoration, c'est un... Même avant de lire le psaume, je voulais donner cette introduction, qu'on voit très tôt dans la Bible l'importance de l'adoration pour les êtres humains en général, puis particulièrement pour le peuple que Dieu choisit pour lui-même, pour être en relation avec lui dans le monde. Et on le voit dès le début de la Bible. Dans le livre de la Genèse, il y a un verset dans les premiers chapitres qui dit... c'est à ce moment-ci, c'est dans cette génération-ci que les humains commencent à invoquer le nom de l'Éternel. Et ça montre que, dès le départ, les humains, c'est censé être leur appel de se tourner vers Dieu pour l'adorer. On voit un peu plus loin, Abraham va adorer l'Éternel et... Dans le livre de l'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible, on voit Israël, le peuple qui est sauvé d'Égypte et qui, voyez sa réaction à ce peuple qui a vu la grandeur des œuvres de l'Éternel, eh bien, c'est marqué dans Exode 33, verset 10, tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Ça, c'est parce que quand Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, eh bien, comme on peut pas voir Dieu, n'est-ce pas, mais lui a choisi de se faire voir par l'intermédiaire d'une colonne de fumée, qui est traduit ici « colonne de nuée ». Et le peuple devait suivre cette colonne de fumée, qui était pour eux suivre Dieu dans le chemin qu'il traçait pour eux. Et à un moment donné, ils aperçoivent la colonne. Alors, tout le peuple, nous dit le verset, se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. Alors, c'est le verbe ici, se prosterner, qui m'intéresse, parce que dans plusieurs contextes, se prosterner est traduit par adorer. Et dans le Nouveau Testament, donc ça c'est l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament qui est écrit en grec, le verbe se prosterner, puis le verbe adorer Dieu, c'est le même verbe. Ou autrement dit, le verbe proskunein en grec peut être traduit en français soit se prosterner, qui est, vous me verrez pas, mais c'est le mouvement physique de montrer hommage à quelqu'un en s'abaissant jusqu'à terre, voyez-vous? Et donc, se prosterner. Mais ça peut être traduit aussi adorer, qui inclut peut-être une action physique, mais qui est beaucoup plus que ça. Nous voyons aussi ce commandement que l'Éternel donne à Israël dans la Torah, c'est-à-dire la loi, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est vu par le peuple juif comme le plus grand commandement, ou en tout cas une partie du plus grand commandement. Aimer Dieu, ça inclut l'adorer. L'aimer exclusivement, ça inclut l'adorer. On voit que Jésus, lui aussi, quand on lui demande c'est quoi le plus grand commandement, eh bien, il va parler d'adoration. Il dit, ah non, excusez-moi, je me trompe, ça c'est quand Satan essaye de le tenter dans le désert, dans Luc 4, verset 8, et veut l'inviter à l'adorer lui. Oublions pas que Satan, avait reçu une grande puissance dans l'univers. Et il dit, adore-moi et je vais partager ma puissance, mon gouvernement avec toi, Jésus. Et Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Donc, on voit que Jésus répète comment c'est central pour le peuple de Dieu d'adorer Dieu et de l'adorer lui seul. Alors, on va lire le psaume. On va faire quelque chose. On va le lire ensemble, à l'unisson. D'accord? On va le lire lentement. Alors c'est pas, excusez-moi, c'est pas la psaume 150, c'est le psaume 150, excusez-moi. C'est le psaume 150. On y va? Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec la sonnerie du cor. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Wow! Quel beau psaume! Et juste un petit secret. Enfin, c'est pas un secret, mais voyez, tous les versets commencent par louez-le. Et la fin, c'est louez l'Éternel. Eh bien, le verbe louer en hébreu, c'est hillel, mais quand on le conjugue dans le sens de l'impératif deuxième personne du pluriel, donc louer comme en parlant à un groupe, ça devient hallelujah. OK? Hallelujah. Et puis, l'Éternel, il y a un diminutif pour le nom de l'Éternel, qui est normalement Yahvé, mais on dit aussi Yah. Donc, Alléluia, c'est le premier mot de chaque verset. Puis le dernier mot, c'est Alléluia. Intéressant, non? C'est un mot qu'on connaît, mais en fait, ça veut dire Alléluia, louer, ça veut dire louer l'Éternel. Donc, c'est bon à savoir ça. Je voulais... OK. Ça, là, il va y avoir du texte que je vais vous lire. Je vais vous demander d'écouter attentivement. Ça vient du cours de membres. Alors, il y a un groupe qui est avec Michel en ce moment en train de faire le cours de membres, mais nous avons fait un cours sur l'adoration il y a quelques semaines. Et les textes dans le petit livre ici, ce que tout membre de l'Église devrait savoir, si vous êtes membre, probablement vous avez un exemplaire chez vous. Et à la page 9, il y a vraiment de très, très belles choses dites sur l'adoration. Je vais vous lire ça. Écoutez attentivement et vous pouvez bien fermer les yeux. Le livre, il dit ceci. L'adoration, elle est la plus haute expression de la vie de l'Église et en même temps, sa plus grande prérogative et son devoir le plus noble. La capacité d'adorer est ce qui distingue l'homme des êtres inférieurs. Être inférieur voulant dire les animaux, les plantes. Nous, on a été créés image de Dieu, puis ça se trouve, on est les seuls êtres vivants qui adorent Dieu. C'est intéressant parce qu'il y a des scientifiques modernes qui disent c'est les hommes, les humains seulement primitifs qui adorent Dieu, mais nous, les chrétiens, on dit plutôt... C'est seulement les humains qui adorent Dieu. Faites attention, si on arrête d'adorer, on redevient un petit peu, ou on devient comme des animaux et des plantes. Alors, c'est important d'adorer. L'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. Dieu est nécessaire à l'homme. Et l'homme est nécessaire à Dieu pour que ce dernier puisse répandre sur l'homme son amour infini. L'homme adore d'instinct. C'est-à-dire, c'est bâti à l'intérieur de nous par Dieu, notre Créateur. Mais Dieu est le seul être digne d'adoration. Adorer qui que ce soit en dehors de Dieu est dégradant pour l'homme et une insulte à Dieu. Alors, on est fait pour adorer, mais à cause du péché, ça peut déraper. La leçon continue en disant ceci, l'adoration est à la fois un instinct et un art. Notre Seigneur Jésus a enseigné à la Samaritaine l'art, c'est pas enseigner, c'est adorer. Excusez-moi, c'est moi qui ai recopié ça, les erreurs sont de moi. Il a enseigné à la Samaritaine l'art d'adorer. Jean 4, 24 rapporte qu'il a dit, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » La seule adoration qui ait quelque valeur aux yeux de Dieu et qui soit en bénédiction pour nous est celle que le Saint-Esprit nous rend capable d'offrir à Dieu. Alors, il y a une structure trinitaire à l'adoration parce que notre Dieu, qui est un Dieu, est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, pour notre salut, le Père a envoyé le Fils, qui est mort pour nous, ressuscité, remonté au ciel, il envoie l'Esprit de Dieu sur nous. Puis là, nous autres, de notre point de vue, l'Esprit qui vit en nous nous pousse à adorer, nous tourne les yeux vers le Sauveur Jésus. Et le Seigneur Jésus nous fait entrer en quelque sorte dans la vie de Dieu le Père. Donc c'est quelque chose de très mystérieux, de très profond et un privilège extraordinaire. C'est ça, si on veut, la louange ou l'adoration dans l'esprit et dans la vérité. On continue avec le prochain paragraphe. La vraie adoration provient de l'esprit renouvelé dans l'homme et elle est la manifestation de son attitude et de ses pensées envers Dieu. S'il était possible d'analyser l'adoration, on trouverait qu'elle comprend l'amour, l'hommage, la dévotion, la révérence, le désir, la soumission, la louange. Wow, j'ai vraiment mis beaucoup de textes. Mais il est important de cultiver un esprit d'adoration dans les cultes de nos églises, c'est-à-dire particulièrement quand on se rencontre ensemble. Les fidèles doivent venir avec une attitude d'adoration. Les pensées et les sentiments étrangers devraient être bannis et un effort devrait être fait pour fermer le cœur à ces intrusions et pour l'ouvrir tout grand à Dieu. C'est un bon rappel, hein? Parce que c'est pas facile de venir à l'Église avec un cœur d'adoration. Pourtant, nous en avons besoin, mais surtout, notre Dieu en est digne. Puis il désire ça. Il est bon d'arriver tôt à l'Église. Alors, on a beaucoup parlé de ça dans la classe, parce que moi, le premier, je suis pas très fort pour arriver à l'heure, mais c'est un fait que arriver à l'heure, ça aide tout le monde à rester dans l'esprit d'adoration. Et c'est bon aussi de passer quelques minutes à fermer au monde les portes de notre cœur et les ouvrir à Dieu. Et voici le dernier paragraphe. L'esprit d'adoration devrait être manifesté tout au long du service. Donc, maintenant, on est ensemble en adoration. Les cantiques, c'est-à-dire la musique, les louanges musicales, les prières, les écritures, les offrandes, hein, quand on passait le panier, même ça, c'est un acte d'adoration. La musique, le message, tous ces éléments devraient faire partie intégrante de l'adoration. Ne laissez pas votre esprit vagabonder ou un cœur négligent vous priver de la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'homme ou à la femme sauvée. De plus, souvenez-vous que le manque d'adoration vole à Dieu quelque chose qui lui est très cher et qu'il désire beaucoup. Je voudrais maintenant parler un petit peu du livre des psaumes, puis on va revenir un petit peu vers le psaume 150. Alors, le livre des psaumes, on peut le voir comme un recueil de cantiques. Nous, maintenant, on a notre recueil sur PowerPoint, mais il n'y a pas si longtemps, dans les églises, il y avait des recueils de chants partout. Le « J'aime l'Éternel », plusieurs le connaissent, c'est un recueil de chants de louanges. Avant ça, il y avait « Les ailes de la foi », il y avait « À toi la gloire », des livres avec des poèmes d'adoration mis en musique, tout simplement. Et on peut voir le livre des psaumes, qui est au beau milieu de votre Bible, comme le recueil de chants d'adoration du peuple d'Israël. Et il y a 150 chants là-dedans, des chants poétiques, qui couvrent toutes sortes de thèmes et qui ont tout pour but ou comme utilité de mener le peuple dans l'adoration de l'Éternel. Il y en a qui sont, on sent, c'est plus pour l'individu qui est tout seul. D'autres, c'est vraiment comme le psaume 150, c'est plus pour la communauté. Mais ils ont tous été intégrés au recueil communautaire qui forme le livre des psaumes. Et le psaume 150, c'est le dernier du recueil. Puis, je crois qu'on a vu quand même que, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce psaume? Ben, je sais pas comment vous le trouvez. Est-ce que vous le trouvez triste? Ma question est vraiment niaiseuse. Comment vous trouvez ce psaume? C'est mieux de poser des questions ouvertes. Qu'est-ce qui vous frappe à propos de ce psaume? Un détail qui vous frappe?
Ça a beaucoup à voir avec faire du bruit.
Faire du bruit, oui. Faire du bruit, de l'action, de l'expression, oui. L'allégresse, oui, c'est très joyeux, n'est-ce pas? Alors, il faut garder en tête, il y a 149 psaumes qui précèdent, puis il y a des psaumes là-dedans, comme le psaume 88, par exemple, c'est pas l'allégresse du tout, c'est la dépression, c'est la noirceur, mais c'est quand même quelqu'un qui chante à Dieu son besoin de lui. Et donc, ça veut pas dire que l'adoration, c'est uniquement un sentiment de joie peut-être artificielle. Mais c'est vraiment intéressant que le dernier, là, c'est une explosion de joie. Et puis, c'est deuxième personne du pluriel, comme j'ai dit, donc c'est communautaire. Et puis, j'aime bien aussi les différents instruments. Alors, le cor, c'est un instrument à vent qui peut-être ressemble à notre trompette d'aujourd'hui. Le luth, la harpe, d'anciens instruments à cordes. Le tambourin, c'est un instrument à percussion. Est-ce que notre sœur, on a une sœur qui amène un tambourin à chaque dimanche, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment qu'il y a un son vraiment festif, je trouve. Et les danses, c'est merveilleux. Les instruments à cordes, le chalumeau, alors ça c'est un instrument à vent, et en tout cas dans le dictionnaire français, on dit que c'est l'ancêtre de la clarinette. Et les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales éclatantes. Et que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça, c'est intéressant. Parce que ça. À quoi ça vous fait penser que tout ce qui respire. Oui.
Wow!
Oui, oui, oui. Alors, les bébés ne sont pas encore nés, mais aussi peut-être les animaux. C'est intéressant parce que le peuple d'Israël, c'est le peuple de l'alliance de Dieu, c'est le peuple choisi. Il loue l'Éternel, mais c'est jamais une affaire hermétique et fermée. Et c'est jamais un party fermé, ça. Il y a toujours dans les psaumes une invitation aux autres nations à reconnaître le Dieu unique, à l'adorer avec eux, à se joindre au peuple de Dieu. Et même, c'est quand aux animaux, à la limite aux plantes, les arbres, il y a un psaume qui dit que les arbres des champs battent des mains, que toute la création adore le Dieu créateur, le Dieu d'Israël. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, quel beau psaume pour terminer le recueil. Et puis, j'ai quelque chose d'un peu spécial, là. Je vais demander à ma technicienne de se préparer. Le psaume a inspiré Israël, le peuple d'Israël, mais aussi l'Église de Jésus-Christ, de génération en génération, a inspiré l'adoration. Alors, c'est possible que ce petit texte ait 3000 ans. Si c'est David qui l'a écrit, on ne le sait pas, mais 3000 ans. Donc, 3000 ans que le texte existe, qu'il a été mis en musique, sur différentes musiques, qu'il a été traduit dans des langues différentes, des Juifs qui ont adoré dans toutes sortes de circonstances, et ensuite des chrétiens, aujourd'hui, que ce soit dans une synagogue ou dans une église comme ici, on utilise le psaume 150. Et je vais vous montrer différents exemples du psaume 150 mis en musique. Oui. De là? Oui. Oui. Et alors, c'est vrai que, donc, ce que Georges dit, quand un homme veut se faire adorer, on dit c'est de la vanité. En fait, la Bible ajouterait, c'est une idolâtrie, c'est-à-dire faire de quelque chose qui ne mérite pas l'adoration. Donc, la Bible dit, le Créateur seul mérite l'adoration, mais est-ce que c'est de la vanité? Dieu n'a pas besoin de l'adoration des humains pour être heureux, mais c'est plutôt... Il a créé l'être humain pour vivre en lui, en Dieu, en relation avec lui. Et l'adoration fait partie de ça. Ça connecte l'homme avec Dieu. Donc, c'est un médium qui permet à l'homme de vraiment se connecter dans cette harmonie avec Dieu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'adoration de Dieu, notre Créateur, ne doit pas se limiter à un acte craintif de prosternement. Comme par exemple, on serait prosterné devant un roi sanguinaire et méchant et vaniteux. C'est toute ma vie qui doit être tournée vers Dieu, mais ça inclut aussi cette attitude, cet acte régulier où je reconnais ma dépendance, je reconnais la supériorité de Dieu. Puis on sait que Dieu n'est pas vaniteux, mais en même temps, il nous invite pour notre propre bien à nous mettre dans cette position-là. Moi, je répondrais comme ça. Je ne sais pas si ça aide un peu. OK, good. Alors, le psaume 150. Commençons avec, Erez Yekiel. Donc, c'est un groupe d'Israël qui a mis le psaume 150 en musique sur une mélodie orientale. Et je me dis, c'est possible que dans les temps anciens, dans l'Israël ancien, pas eux autres. Ça, c'est les rabbins. On va les écouter plus tard. Pas les babins, les rabbins. Merci. Alors, vous voyez un peu, ça c'est vraiment l'hébreu, c'est la langue hébreu, mais c'est vraiment le texte intégral. Merci. Oui, on n'avait pas en fait terminé. Alors, juste peut-être que je vais vous mettre sur pause. C'était le texte en hébreu. Et puis, possiblement, avec la sonorité de l'ancien temps. Mais, juste pour illustrer le fait que, les Juifs continuent à utiliser les psaumes à notre époque. Et voici deux rabbins juifs d'aujourd'hui qui ont composé une nouvelle musique sur les mêmes paroles en hébreu. Et voici ce que ça donne. Ça a été composé récemment. Bon, alors, il y en a qui applaudissent. Comment vous réagissez à ces versions du psaume 150? C'est surprenant? Qu'est-ce qui te surprend? C'est exactement la même réaction que j'ai eue. Ça peut être même un peu troublant dans le sens. Mais d'un autre côté, n'oublions pas que le peuple d'Israël, avant que Jésus vienne, c'est un Israélite qui a écrit ça. Ils ont chanté ça pendant des centaines d'années. Et ça vient toucher le cœur de l'être humain, n'est-ce pas? Donc, nous partageons ça dans un sens. Et je dirais la même chose de nos amis musulmans. Moi, une fois, j'ai été invité par des amis musulmans à écouter leurs prières. Et puis, j'étais vraiment touché. J'ai senti, wow, c'était de l'adoration très profonde malgré que, bon, je comprenais pas les paroles, mais disons, il croit au Dieu unique et je crois qu'il y a quelque chose de partagé. Comme disait notre livre des membres, notre cahier des membres, Dieu a mis en nous l'instinct d'adorer et on partage ça. La musique, c'est un peu... attends une minute. OK. Alors, voilà. Oui, alors, là, ça, vous allez voir quelque chose de pas mal différent. C'est dans le style classique. Et il y a eu toute une période dans le monde, comme on va dire, moderne, où on mettait les psaumes sur la musique classique. Et puis, quand on dit, avec la trompette, avec la harpe. Mais il y en a qui ont vraiment capoté là-dessus. Alors, regardez un peu ce que le compositeur John Rutter, un compositeur britannique, a fait avec le psaume 150. C'est autre chose, n'est-ce pas? Alors, c'est fort intéressant parce que... on penserait peut-être que les chrétiens, à cause de notre Messie crucifié, qu'on aurait peut-être une approche comme humble et simple à la louange. Pas nécessairement. Hein? On voit qu'il y a des... Ça, c'est, on peut dire c'est plus du côté chrétien, mais c'est vraiment grandiose, avec même l'architecture et tout qui est mis en valeur. Et on voit les rabbins qui ont fait quelque chose de très simple. Mais donc, ça montre que les psaumes inspirent toutes sortes d'interprétations différentes. Et voici quelque chose dans la même lignée. C'est le psaume 150 de César Franck, un compositeur français très, très célèbre. Et cette interprétation est très connue. Et je l'ai même chanté, moi, une fois dans une chorale. Alors, voilà, ça, c'est donc en français. Un peu la même idée, donc musique classique occidentale. Maintenant, j'en ai un autre. Ça, ouais, c'est plus nous autres, ça. OK. Bon, ben là, je voulais faire un panorama, mais il y aurait tellement d'autres. Il y a sûrement des versions typiquement africaines, des versions typiquement latino-américaines, et que sais-je. Mais ça nous montre un peu comment les psaumes sont un cadeau pour nous qui nous invite à adorer. Oui, puis ce que je voulais dire, c'est que dans la période de louange qui va suivre notre temps d'enseignement, on va chanter ensemble une version du psaume 150 en français, une version comme contemporaine, qui est, je pense, assez typique de nos recueils de chants actuels. C'est « Louer Dieu dans son sanctuaire ». Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là. « Louer Dieu dans son sanctuaire ». Fait que l'idée, c'est que là, on faut se préparer comme dans nos cœurs pour bien chanter tout à l'heure, n'est-ce pas? Parce qu'on a vu qu'on a de la compétition. Oui, voilà, c'est un exemple. Ça, c'est le texte en hébreu. Et il y a des indications en haut des mots hébreux pour le rythme et aussi la musique. Mais j'avais peut-être une question pour vous, avant de clore. On a parlé de l'adoration, de son importance dans nos vies. Quel obstacle personnel à l'esprit d'adoration aimeriez-vous demander à Dieu d'ôter de votre cœur? Alors, je vais vous laisser avec cette question, mais peut-être que quelqu'un aimerait a peut-être le courage de partager avec le groupe peut-être un obstacle, mais pas un obstacle extérieur à vous, comme, mais mon obstacle, c'est ma femme. Non. C'est parce qu'on va perdre notre esprit d'adoration. Ou mon obstacle, c'est la famille de Bané qui arrive toujours en retard à l'église. Non. C'est peut-être vrai. Mais est-ce qu'il y a peut-être des choses dans notre manière de penser, ou des choses qui sont dans nos cœurs, qui sont peut-être partagés, on n'est peut-être pas seul. Oui.
Tu as donné des exemples drôles, mais c'était exactement ça qui m'a venu à l'esprit.
C'est ta femme? Non.
Le relationnel peut affecter aussi cette relation-là et ma disposition.
Oui.
À aborder la présence de Dieu.
C'est vrai. C'est une bonne façon de l'expliquer. Donc, mes relations avec les autres. Oui, dans la mesure où je peux corriger le tir moi-même, je dois. C'est pour ça, par exemple, que dans certaines églises, ils disent, c'est très intéressant, la Sainte Cène, c'est l'acte d'adoration comme centrale de la vie d'Église. Tu dois te réconcilier avec ta sœur ou ton frère avant de venir. Et ils vont, nous, on le fait pas, mais ils vont dire, la Sainte-Sainte, c'est dans 2 semaines. Préparez-vous. Si vous êtes en chicane avec quelqu'un, allez le voir, parce que c'est la Sainte-Sainte qui s'en vient. Je trouve ça intéressant. Le relationnel est très important, bien sûr. Merci, Douglas. Oui, oui. Le stress de notre liste de choses à faire, oui. Oui. Ah, oui. Oui, oui. Donc, oui, c'est un peu comme les disciples qui ont vu cette dame qui a... Sa manière d'adorer, c'était de prendre du parfum très cher et le verser sur Jésus. Et ça les a beaucoup dérangés. Puis, mais Jésus, comment il a réagi? Il a dit, mais non, c'est bien. Il faut la laisser faire. Et merci, oui. Et ça me juste un petit flash, j'ai pensé, prions pour le studio 1506, que Dieu vous inspire vraiment à vraiment vivre cette liberté-là de créativité dans la louange avec les jeunes. Oui. Oui. Merci, bien dit. C'est tellement vrai. Ça rejoint un petit peu ce que Cheryl disait aussi. On devient accablé par notre liste de tâches ou de problèmes aussi. Puis on oublie quel privilège on a de connaître Dieu. Oui, oui. Oui, merci beaucoup pour vos partages. On va prendre un moment pour prier. Et donc, c'est ça qu'on va chanter tout à l'heure. Et ça, c'est aussi... Le psaume 150. Mais je laisserai ça aux soins de notre équipe d'adoration. Prenons un moment pour prier. Et je demanderai à ceux qui aimeraient élever la voix, soit pour adorer ou pour demander à Dieu de nous aider à devenir des adorateurs. Juste d'élever la voix, puis je vais clore dans quelques minutes. Oh, Elsie, oui. Oui. Oui.
Moi, personnellement, je ne vois pas d'obstacle à l'adoration. Au louange, à l'honneur, au dommage.
Oui.
Tout cela lui est dû.
Oui, tout cela lui est dû. Et il ne devrait y avoir aucun obstacle. D'un autre côté, si vous vivez des obstacles, on est là pour s'entraider, pour s'entre-encourager, parce que surmonter ces obstacles-là, les amener à Dieu, les éliminer, c'est afin de rentrer dans la vie qu'on est censé vivre. Merci, Elsie. Merci beaucoup. Prions.